voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission qui nous entraîne cette semaine sur l'île de la Réunion. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Contrairement à ses sœurs, à ses jumelles caribéennes, Guadeloupe et Martinique, contrairement à Tahiti, toujours sous l'emprise de Gauguin, la Réunion a été assez peu, voire très peu filmé par le cinéma français. Et donc c'est avec une grande surprise, doublée d'un grand bonheur, que nous avons découvert votre film, Emmanuel Parot. Bonjour.
Bonjour, oui.
Alors bienvenue dans Tous les cinémas du monde. On prend un peu d'avance cette semaine sur le calendrier, puisque votre film Maudit sortira dans les salles françaises le 17 novembre. Maudit, c'est l'histoire de deux amis associés dans une affaire de bar, ou plutôt de buvette permanente, disent-ils. Vous nous expliquerez ce que c'est. Situé dans un cadre paradisiaque, donc dans ces montagnes volcaniques où le vert tropical répond au bleu des cascades, un paradis, dit votre héros Alix quand il part faire son jogging avec son ami Marcelin par un beau matin. Sauf que voilà, Marcelin va disparaître, Alix va se mettre à faire des rêves épouvantables, à avoir des hallucinations. Alors Emmanuel Parot, vous plantez dès le départ des signes un peu de, peut-être pas de réussite sociale, mais en tout cas d'aspiration sociale. Vos deux personnages, voilà, ils ont un 4x4 flambant neuf, ils partent faire du jogging, c'est des entrepreneurs, on sent qu'ils sont déjà dans une spirale ascendante, et on est très très loin du milieu que vous décriviez dans votre précédent film, Sac la mort, où là on était plutôt avec un quinquat très, très alcoolisé et presque SDF. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre?
Alors en fait, j'avais surtout envie de raconter un autre aspect de l'île de la Réunion, parce que l'île de la Réunion est habitée par, socialement, il y a des gens très différents, les origines aussi sont aussi très très différentes, et toutes ces personnes cohabitent avec des histoires à la fois semblables et très différentes, et c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais il m'a semblé qu'un seul film sur la Réunion, ça ne suffisait pas pour raconter l'étendue de cette île. Et j'aime bien Balzac, j'aime bien Flaubert, et j'aime bien aussi Faulkner. Et tous, ils ont essayé de raconter leur époque, leur pays, leur territoire. Et j'ai voulu montrer une autre facette de cette île. Là, effectivement, c'est des garçons plus jeunes, des trentenaires. Ils ont fait des études, ils sont bardés de diplômes. Ils ont l'espoir de pouvoir trouver un travail. Et la réalité, c'est que, et ça c'est absolument actuel, c'est que sur l'île de la Réunion, il y a un taux de chômage qui avoisine les 40%, qu'il y a paradoxalement beaucoup d'expatriés qui viennent de France pour travailler sur cette île, dans la fonction publique, dans les hôpitaux.
Tous les jobs sont un peu pris.
C'est ça, et même, faut dire quand même la complexité des choses, même le patronat local réunionnais préfère embaucher des expatriés parce qu'ils savent qu'ils ont un contrat de 2 ans ou 3 ans, ensuite ils s'en vont, et s'il y a des problèmes, c'est plus facile à gérer, c'est de la ressource humaine, c'est comme ça. Et donc, les jeunes réunionnais de 30 ans n'ont pas de travail sur l'île et s'expatrier aujourd'hui, ce n'est plus vraiment à la mode, je dis ça ironiquement. Donc, il y a frustration dès le départ chez ces deux garçons, et j'ai voulu raconter qu'est-ce qui se passe quand la frustration envahit tout. Frustration de l'intime, frustration de professionnelle. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus vraiment d'avenir? On ne voit plus le schéma du progrès tel qu'on l'entend habituellement.
Du progrès social. Et l'idée de Maudit. Maudit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le dire tout de suite avec un point d'exclamation, donc il faudrait le dire autrement. Maudit, elle est venue d'où? Ce sont ces deux jeunes entrepreneurs, c'est des gens que vous connaissiez. Ça part d'où
Ça part de mes observations sur place. En fait, depuis maintenant 17 ans que je vais là-bas, je rencontre tous ceux qui veulent bien me rencontrer, je discute avec tout le monde, et à partir de là, je me dis, ce qui est le plus important aujourd'hui, ce dont il faut parler aujourd'hui, le point de départ de mon prochain film, ça sera telle ou telle chose. Et là, ça m'a semblé être vraiment quelque chose qui est au cœur de ce qui se passe sur l'île en ce moment. Beaucoup de jeunes sont dans cette situation, et beaucoup de jeunes se disent aussi, il y en a marre, nos parents, nos grands-parents se sont tus pendant des années, on vient de Madagascar, on a d'autres, c'est un exemple, hein, on a d'autres croyances, on a d'autres cultures, et aujourd'hui on ne veut plus ignorer ça, on ne veut plus se taire là-dessus. Donc prenons quelqu'un qui est d'origine malgache. Les Malgaches vivent avec leurs ancêtres. Au bout de la table, il y a une chaise, il y a une assiette. Quand on mange, l'ancêtre est convoqué pour manger avec nous. Ils sont là, on fait des cabars, on rentre en transe et les ancêtres nous conseillent sur notre vie et parfois sur des choses extrêmement concrètes. Faut-il faire un bébé ou pas? Faut-il chercher tel travail?
Ouvrir une buvette ou pas?
Ouvrir une buvette ou pas. Et donc, cette présence-là aujourd'hui n'est plus niée, reniée, ignorée. Au contraire, ils veulent le mettre en avant. Donc, effectivement, dans les deux personnages, pour moi, il y en avait un d'entre eux qui acceptait l'idée que les ancêtres vivent avec lui. Et les ancêtres, c'est aussi les marrons, ceux qui se sont échappés des plantations, dont les âmes errantes vivent encore dans les montagnes, surtout dans cet endroit plein des palmistes. Et j'ai des témoignages très précis de gens qui ont été mis en contact avec ces âmes errantes. Et il va se laisser envahir par ça, guider, pour le meilleur et pour le pire.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisqu'on sait que la Réunion au XVIIe et XVIIIe siècle était réputée. Enfin, Île Bourbon, à l'époque, était vraiment réputée un lieu de marronnage, hein, ce qui était sûrement lié aussi à la géographie très accidentée de l'île. Mais avant, je vous propose de partir pour une petite fête, beaucoup de musique et beaucoup de rhum. Voilà, c'est la dernière grande nuit de fête, très alcoolisée, entre Marcelin et Alix. Et déjà, on l'entend littéralement, le disque est un peu rayé.
Absolument, le disque est rayé. La chanson raconte l'histoire d'un type dont la corde a cassé, c'est-à-dire qu'il s'est pendu, enfin, il a perdu ses moyens, il s'est pendu. Et c'est aussi là où se développent les rapports de domination-soumission entre les deux potes.
Est-ce que ça a un rapport, ces rapports-là, justement, à leur couleur de peau, à leurs origines? Parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais Marcelin, qui a l'air qui a cette belle maison, qui est très, très sportif, hein, on voit, il a des coupes, et il fait du jogging plus sérieusement presque, on a envie de dire, qu'Alix, Marcelin est métisse.
Oui, alors comme partout dans le monde d'ailleurs, hein, plus j'avance sur ce sujet-là, plus je me rends compte que plus on est noir, plus on est en bas de l'échelle sociale et en bas de tout d'ailleurs. Et donc Alix porte cette tare entre guillemets, et évidemment, personne au monde n'a envie d'être de peau très sombre. Ça me désole bien sûr, hein, en tant que citoyen, mais c'est plus compliqué de vivre dans notre monde quand on a la peau très sombre. Oui, effectivement. Et donc, leur conflit entre les deux personnages se nourrit de ça aussi, bien sûr, puisque, sans que ce soit jamais dit, Marcelin considère que Alix est un peu son inférieur et c'est lui le dominant, bien sûr. D'ailleurs, c'est lui qui a la femme blanche, hein, donc.
Alors justement, cette femme blanche, on va en reparler avec vous, Emmanuel Barraud. Mais avant, on fait une petite pause avec Eddie Depreto. C'est le choix musical de notre réalisatrice Tiffany Minta.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire. Comment faire genre pour se tenir? Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die. Qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi, tu connais comment ouais, je suis épuisé.
Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire. Comment faire genre pour se tenir? Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Emmanuel Barraud pour parler de Maudit. Alix et Marcelin se sont connus à l'orphelinat. Ils s'aiment comme des frères, mais leur amitié, lorsque le film commence, hein, on se le disait tout à l'heure, montre des signes de faiblesse. Entre autres, Dorothée, la petite amie de Marcelin, n'est pas très appréciée d'Alix.
Pas que ça, Marcelin.
Sinon, Alix.
T'es ben, ou là, enfin, Rouni. On laisse les gâtés là sans dire au revoir, on rebat comme un volet à poisson là.
Quoi vraiment, on n'aurait pas dit au revoir?
Ah là là! Ah là là! Rappelle puis l'orphelinat là! Règle numéro 1.
Fais jamais confiance, personne, Alix.
Rappelle tout le temps, tu rappelles ça, les gars.
Manière, fin barré.
Ce sera pareil, ce sera jamais fini avec Dorothée là. Française un jour, française toujours. Et puis gardez, tout bonnes oreilles fait ça. Hein? Ouais, vie, ma vie, nous connaît les affaires. On rappelle, oh, petite famille d'accueil, au bon Rousseau. Banani, on apprend tout pendant 3 ans. Après, on a barré. Ami oiseau dans cette soirée là. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et gardez nous. Vous connaissez le train par cœur. À quoi vous restez étonné, hein? Jamais. Chapeau un PV, hein.
Alors, racontez-nous un peu cette scène. Hein. On entend quelques mots qui ressurgissent. Emmanuel Parot, hein, on comprend, sous le réunionnais, on comprend qu'ils ont été à l'orphelinat ensemble. Il y a une sorte de pacte entre eux, hein, de ne jamais faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça, c'est un réunionnais qui me l'a dit. Un jour, quand il était enfant, son père l'a mis sur une table, debout sur la table. Il s'est mis à côté, il lui a dit « saute ». En ouvrant les bras pour retenir son fils. Le fils a sauté, le père n'a pas refermé ses bras sur l'enfant, l'enfant s'est étalé sur le sol. Il s'est fait mal. Et le père lui a dit, il faut que tu apprennes une chose, il ne faut jamais faire confiance à personne. Et ça m'a frappé.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible, oui.
Ça a ouvert toute une société, enfin.
Absolument, c'est-à-dire que tout se délite, quoi. Si on peut plus faire confiance même à son père, c'est la fin de tout. Alors bien sûr, tous les Réunionnais ne sont pas comme ça, ne disent pas ça. Mais moi, dans le milieu où je navigue, ça arrive, je pourrais vous raconter plein d'exemples comme ça. Et je me suis dit, voilà, un pacte entre deux orphelins, ça peut être ça. Ne fais confiance à personne, on sait qu'on est tout seul dans l'histoire et qu'il faut se débrouiller tout seul. L'idée de l'orphelinat, être orphelin, oui, c'est des orphelins dans le film. Mais chaque Réunionnais est orphelin. Chaque Réunionnais...
Orphelin de quoi ?
De son point d'origine. La plupart des Réunionnais, moi j'en ai connu certains, ils vont aux archives départementales et ils cherchent à savoir d'où ils viennent, de quel pays ils venaient au départ. Hein. Rappelons quand même, s'il faut le faire, que la Réunion a été peuplée par
Ghana,
esclaves,
Sénégal,
voilà, Mozambique, etc. Et donc j'en connais plusieurs, ils sont allés là-bas et ils remontent, puis à un moment, c'est un numéro.
C'est-à-dire ?
Eh bien, un esclave n'a pas de nom. Un esclave a un numéro. Et donc, aux archives départementales, le plus ancien que l'on connaît, c'est un numéro et on n'a pas ses origines, on n'a pas son nom, on n'a pas qui il était, rien. Et donc, beaucoup de Réunionnais, ceux qui sont les descendants des esclaves, sont des orphelins de leurs origines. Et donc, pour moi, c'était important de faire de ces deux garçons des orphelins puisqu'ils n'ont pas de point d'origine.
Et dans cette scène, Alix reproche aussi à Marcelin de tomber toujours dans le même schéma, c'est-à-dire de sortir avec des femmes blanches qui après vont repartir en métropole, le laissant là. C'est une forme moderne, enfin je ne sais pas, en tout cas d'occupation des corps, qui a un rappel lointain de l'esclavage.
Oui, alors c'est à la fois une certaine réalité... Et un fantasme, mais un fantasme construit par l'expérience de l'histoire. Parce que oui, les Blancs, traditionnellement, ils viennent travailler sur l'île, ils ont un bon contrat, et à la fin du contrat, quand vous êtes dans l'éducation nationale, par exemple, vous avez un contrat de 3 ans ou 5 ans, et puis après, il est renouvelé une fois, puis après, vous rentrez en France. Donc vous êtes de passage.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils me disent les Français, mais eux sont Français, enfin eux sont citoyens français, mais sauf que pour eux, il y a les Français et eux.
Voilà, ça, il y a 20 ans, on ne disait pas cette expression-là.
Ah oui.
Aujourd'hui, les jeunes de 30 ans, ils disent les Français.
Et il y a une autre dimension aussi dans cette scène, c'est « touche pas à la femme blanche », quoi. Enfin, il y a quand même
ah, tout à fait,
quelque chose de fort.
Elle va te trahir forcément. D'ailleurs, là, dans la scène, Marcelin est assez triste, puisqu'il a appris que sa copine blanche, elle repart justement travailler dans un groupe de musique en Europe, et que c'est fini pour lui, quoi. Et lui, il reste là. N'oublions pas que les esclaves étaient assignés à résidence, on va dire, de l'île de la Réunion, qui est à 2000 km de toutes les côtes. C'est une véritable prison. Et donc, eux, ils n'ont pas pu bouger. Alors que la liberté de se déplacer, c'est les Blancs qui l'avaient. Donc tout ça, ça reste inscrit quelque part dans les cerveaux. Les couches de l'histoire s'accumulent. On ne sait pas trop comment faire avec ça. Et quand il y a conflit intime, parce qu'au fond, Alix, il est tout simplement amoureux de cette femme. Il la trouve jolie. Il aimerait
il la
bien.
Veut, et c'est la femme de son copain. Oui,
c'est ça. Il est jaloux.
Il y a un tourbillon d'affect dans la tête d'Alix. D'ailleurs, on n'a pas dit le nom de l'acteur, donc c'est Farouk Saïdi. Et Aldo Dolphin qui joue Marcelin. Ils sont extraordinaires. C'est la première fois qu'on les voit à l'écran.
Ah, ils n'avaient jamais joué de leur vie.
Comment
on
vous
a
les
fait...
avez trouvés ?
Alors, je travaille toujours de la même façon avec Karen Autois, qui est la personne qui travaille avec moi sur les castings. On a lancé un appel. Grâce à sa clameur, on a cette fois eu un peu de reconnaissance. Il y a plus de 3000 personnes qui se sont inscrites pour une dizaine de rôles. 3000 personnes. Donc, moi, j'ai vu les 200 personnes restantes. Et pour savoir si je vais bien pouvoir travailler avec elle, je donne la réplique. C'est moi qui joue avec les personnes quand elles passent le casting. Et on voit bien ensemble, si on a l'impression que quelque chose se passe entre nous, on peut aller plus loin. Alors après, évidemment, il y a des agencements aussi. Il faut que le couple Marcelin-Alix, il fallait que ça marche entre eux. La remarque que vous avez faite tout à l'heure sur la couleur de peau, elle était là et il fallait aussi ça.
C'était dans le scénario ?
C'était dans ma tête, en tout cas. Hein, parce que bon, moi, j'écris des scénarios pour avoir de l'argent, je m'en cache pas. Et je sais qu'il faut écrire d'une certaine façon. Sinon, les commissions, vous pouvez aller vous rhabiller, c'est terminé. Après, un film, c'est de la mise en scène quand même. Voilà. Et donc, vous faites une adaptation. Quand vous êtes sur le terrain, tout se recompose. Et le casting est pour moi la pièce maîtresse de réellement où je vais aller. C'est à ce moment-là que mes personnages se mettent à exister. Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire exister un personnage en dehors de la réalité de celui qui va l'incarner. Quand vous prenez Depardieu, à moins de le faire que pour des raisons bankable, vous prenez Depardieu parce que Depardieu, malgré tout, c'est un caméléon, il peut être ça, et ça, c'est sa grande puissance, mais vous travaillez à partir de ce qu'il est au fond de lui-même, et c'est ça que vous allez chercher. Ben, c'est pareil avec des inconnus, eux, ils n'avaient jamais joué de leur vie, ils se sont inscrits, il y en a même un, je peux vous dire, Alix s'est inscrit, il voulait être figurant. On l'a vu dans sa petite vidéo, on a demandé à chacun d'envoyer un petit selfie où il se présente tout
donc
simplement.
Là, on parle de Farouk Saïdi.
Farouk Saïdi, celui qui fait Alix. Et il envoie ça et on se dit, nom de Dieu, c'est lui.
Qu'est-ce que vous lui disiez, par exemple, parce que votre film orchestre la montée de la terreur chez Alix, qui voit son ami Marcelin, donc qui a disparu. Alors, est-ce que c'est une fugue, un meurtre, un enlèvement? En tout cas, Alix a du sang sur les mains, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, qu'est-ce que vous lui disiez à Alix ? C'est un personnage très compliqué, très torturé, très contradictoire.
Oui, alors justement, je ne lui en ai pas
Pardon,
dit...
Pardon, pas Alix, hein, Farouk Saïdi.
Je ne lui en ai pas trop dit en amont. Parce que je sais qu'un acteur à qui vous dites « Ah ouais, alors ton personnage, je vais être ça... »
Il va trop charger la barque.
Et puis il va être autre chose, et puis il va être encore autre chose, et puis il va être le paradoxe, l'inverse total de... Voilà. Moi, je sais que dans la vie, ça existe, mais pour un acteur, c'est très compliqué, surtout un acteur français dont sa base de travail est essentiellement la psychologie. Donc là, il faut pas trop lui en dire. Par contre, je teste en casting toutes ses facettes possibles. Alors, Farouk, il pouvait tout faire. Il pouvait être quelqu'un dont on avait... On l'adorait, il était d'une gentillesse absolue. Et quand on le poussait dans ses retranchements pour devenir quelqu'un qui pouvait devenir à la limite de la dinguerie, et il pouvait l'être. Son corps, ses gestes, son rythme interne suivaient le mouvement et je pouvais tout lui demander.
Mais lui, il n'est pas acteur.
Lui n'est pas du tout acteur, il est, comment on dit, ceux qui vous réparent...
Chiropracteur.
Il est kiné dans la vie, il a quand même fait une école de cinéma en France, qui est l'école de l'écart, il a des projets de cinéma, mais ça s'arrête là, il a, à part avoir joué, je crois, un petit rôle de Molière au collège, il n'est jamais allé plus loin.
Juste une question, ouais. Parce qu'on parle beaucoup de réappropriation culturelle en ce moment, vous décrire, pour les auditeurs de vérité, vous êtes forcément vu comme un Français.
Ah, je suis un blanc, moi.
Par les Réunionnais. Donc, est-ce que c'est revenu, cette question, au moment du casting, avec vos acteurs principaux?
Alors, cette fois, ça n'est pas revenu parce que les gens ont tous vu Sac la Mort. Il faut imaginer que Sac la Mort à La Réunion, c'était un succès commercial. Et si l'exploitant n'avait pas coupé, la salle, c'était les meilleures recettes de sa salle depuis des années. Et tout le monde l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, à part une ou deux personnes dont je vais simplement dire qu'ils sont simplement jaloux, plus personne ne me dit « tu n'es qu'un sale blanc ». Personne.
Non, et la question, c'est plutôt Emmanuel Parot, comment vous, et c'est absolument pas une accusation, c'est une question, c'est-à-dire comment vous situez par rapport à ça?
Je suis dans une démarche d'hybridation, c'est-à-dire que chacun est ce qu'il est et il faut en travaillant ensemble, on peut obtenir mieux que tout seul dans son coin. Donc, par exemple, je ne parle pas le créole, mais tous mes acteurs s'expriment en créole. C'est leur langue. Donc, je vais pas demander à un acteur anglais de s'exprimer en français. Je sais que ça serait pas bon. Un acteur créole qui pense, qui parle, qui rêve en créole, il faut qu'il s'exprime dans sa langue maternelle.
Et vous faisiez comment, du coup? Vous aviez un traducteur ou...
J'ai quelqu'un entre les deux qui me fait la traduction. Et puis, il se trouve que maintenant, le créole, je commence à comprendre un certain nombre de choses. Et donc, je peux naviguer à l'intérieur de ça. Mais si vous respectez un réunionnaire lui disant « ta langue est une richesse », De surcroît, je sais que le réunionnais est encore aujourd'hui une langue orale. Une langue orale, chacun est responsable des mots qu'il utilise. Il n'y a pas de dictionnaire et de grammaire auquel se référer. Donc, chacun est responsable des mots. Donc, voilà, je lui dis, voilà, moi, tu vois, très modestement, j'ai écrit ces dialogues-là en français. Maintenant, je voudrais que t'en fasses l'adaptation et que tu t'empares de ça. Alors, évidemment, tel mot ou telle phrase, c'est important, sinon on va plus rien comprendre au film. Mais tu as ça comme repère. Le reste, dis-le à ta façon. Et on parle, après, évidemment, de ce qui est derrière les mots, ce qui fait que ces mots-là apparaissent à ce moment-là de l'histoire pour le personnage. Et après, la personne étant engagée à ça, étant elle-même réunionnaise et donc habituée à faire son affaire de son côté, profitant aussi du fait que je ne comprends pas tout, parce que c'est une grande liberté pour un acteur de savoir que le réalisateur va pas l'emmerder à la virgule près, mais qu'il va pouvoir dire les choses à sa façon, eh bien, il y va. Et en plus, comme on est en numérique aujourd'hui, eh bien, je peux faire un plan qui dure 20 minutes. Je peux faire un plan qui dure 3 quarts d'heure. Ce n'est pas un problème. Si ça ne va pas, on le met à la poubelle. Si c'est bien supérieur à ce que j'avais pensé, eh bien, moi, le soir, je vais réécrire mon scénario modestement pour essayer de me hisser à la hauteur de celui qui a dit ces choses aussi magnifiques dont je n'aurais jamais été capable de les imaginer, de les inventer et même de les dire. Donc, réalisateur, encore une fois, maintenant, je considère que c'est... Je crois que c'est Desplechin qui disait ça un jour et je me suis dit « Ah, il a vraiment raison ». C'est quelqu'un qui donne de l'énergie à tout le monde. Voilà. Et après, chacun fait sa partie et chacun doit être au maximum de sa partie. Et c'est ça qui construit le film. Alors oui, je suis un peu le chef d'orchestre. Mais arrêtons de penser que je suis Dieu après Dieu, quoi. Ce genre de conneries qu'on voit partout, y compris, parfois j'entends ça dans les écoles. Non, faut arrêter avec ça. On est là, un passeur d'énergie. Et après, et on a des antennes partout. Il faut essayer de faire en sorte que tout le monde soit pour le meilleur. Et les acteurs, surtout, quoi.
Et c'est vrai que après vous vous créez, enfin ce qui est assez épatant quand on regarde votre film, c'est qu'on n'a jamais vu ça parce que comme le disait Elisabeth en préambule, la réunion a été peu filmée. Alors après on a quand on voit votre film, on pense à des références, on pense par exemple à Jacques Tourneur, enfin en termes de d'utilisation du fantastique.
On ne pense pas du tout à La Sirène du Mississippi.
Ça c'est vrai.
Mais d'ailleurs, bon, moi j'adore ce film, hein, mais il faut reconnaître que Truffaut est allé là-bas parce qu'il avait besoin de camper son histoire loin de la terre française. Donc il a profité des décors, de l'exotisme, et point à la ligne. Et tous les films français qui sont allés se tourner là-bas, ils sont allés pour ces raisons-là. Sincèrement, je crois être le seul Français à être là, aller là-bas en se disant « Écoutez les gars, je n'y comprends rien, j'ai envie de connaître, aidez-moi et travaillons ensemble ». La démarche d'origine, elle est là, elle est dans cette modestie, je crois, et mon ouverture d'esprit, je veux pas m'envoyer des fleurs, c'est pas du tout ça, c'est que simplement, quand j'ai mis les pieds là-bas, quelqu'un a voulu me planter une fourche dans le ventre. On avait oublié du matériel le soir après un interview dans une case et je retourne là-bas, je tape à la porte, c'était 18h, le soleil se couche très vite à La Réunion. J'ignorais qu'à 18h jusqu'à 19h, les bébêtes sortent du cimetière, elles sont dans l'air là et il ne faut pas sortir de sa case, en tout cas pour la personne qui habitait dans cette maison. J'ai tapé, j'ai dit « je suis le réalisateur, je viens vous chercher pour récupérer le matériel ». La porte s'ouvre brusquement avec une fourche et le type veut me planter sa fourche en disant « Le diable, va-t'en, le diable, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Et aussi vite, il me reconnaît, il me dit « Oh, monsieur Parot, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Rentrez donc, prendre un verre et après tout s'est bien passé ». Bon, face à ça, j'avais envie de comprendre et en même temps, c'est un choc.
Faut pas être cartésien, quoi, c'est ça?
Non, faut accepter que la civilisation occidentale est simplement 20% de la population mondiale. Le reste, ils ont d'autres valeurs, ils pensent autrement. Et d'ailleurs, j'ai appris depuis que Descartes, avant de faire sa fameuse cartésianisme, eh bien, il a écrit un livre dans lequel il fait l'éloge du surnaturel en disant qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne sait rien. Voilà, donc le point de départ, c'est ça. Donc, personne n'a jamais eu cette approche-là. Et je peux vous dire que même à La Réunion, les réalisateurs aujourd'hui qui sont là-bas, j'en connais pas un seul qui a cette démarche-là. Alors, la grosse différence, c'est que moi, je suis blanc. Eux, ils ne sont pas blancs, ils sont de La Réunion. Ils n'ont pas besoin de se poser ces questions-là. Moi, je passe beaucoup de temps à me dire... Est-ce que j'ai une place juste? Est-ce que je suis pas dans l'appropriation culturelle? Comment je peux raconter une histoire pour des réunionnais, certes, mais aussi pour des Français de souche gauloise qui ne comprennent rien à La Réunion, qui n'y ont jamais mis les pieds, qui voient des émissions en disant le paysage est beau, mais ça s'arrête là, pardon.
Alors racontez une histoire, justement, on va revenir à votre film Emmanuel Parot, donc Maudit. On est au moment où Marcelin a disparu, Alix se retrouve orphelin et possiblement meurtrier, et justement des Français, hein, je le dis entre guillemets, des gendarmes viennent à la buvette. Écoutez bien, c'est une scène assez soft et pourtant très violente.
Bonjour. Vous savez que le sentier qui mène à la cascade est fermé?
Oui.
Vous savez, mais vous laissez passer les gens quand même. Tout ça pour vous faire un peu d'argent avec votre buvette, c'est ça? Hein? Dites pas le contraire, on vient de vérifier là, à l'instant. Vous vous foutez de nous en fait, c'est ça? Si, vous vous foutez de nous. Bon, allez, on va aller voir ça. Allez, on avance.
C'est à côté, c'est en bas, c'est en bas la montagne, c'est dangereux.
Arrêtez de jouer au plus malin, d'accord? Il y a des lois, il faut les respecter, c'est tout, d'accord? Bon, et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, là, cette nuit, avec votre collègue?
Rien.
Rien? C'est parce qu'on dit les voisins, apparemment, ils vous ont entendu vous disputer.
On les prune à chamaille un petit peu, madame, mais...
Chamaille,
sans plus, hein.
Pas d'autre. Ouais, t'as fini?
Oui.
Hé, déconne pas avec le sentier.
Bon.
Mais bon?
Mais bon, on m'a bien compris.
Sérieusement, on va repasser, nous. Bon. À plus tard. Allez, Cyril, on y va.
Allez Cyril, on y va. Alors inutile de préciser que tous les gendarmes sont blancs. Il y a quelque chose de très impressionnant dans la scène, quelque chose de détestable déjà, je trouve, dans la façon dont ces gendarmes parlent à Alix. Et quelque chose d'effrayant aussi dans sa peur à lui.
Oui, ils sont à la fois très paternalistes. Il n'aurait pas fallu du tout que les gendarmes soient tels qu'on les attend habituels, c'est-à-dire agressifs. Voilà. Là, c'est à la fois sans appel et sans élever la voix. Il y a des lois, il faut les respecter. Il n'y a rien à discuter.
Mais on lui parle un peu comme à un enfant.
C'est ça, c'est infantilisant.
Qui essaie de tricher.
Oui, absolument, absolument. Oui, ouais.
Et ce qui est impressionnant, c'est que ce qu'on voit vraiment dans cette scène, c'est qu'on a l'impression qu'il est fugitif dans son propre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour lui, en fait.
Dans ce film, il y a effectivement la compréhension de sa part qu'il n'y a aucune place jamais pour lui, sauf à la toute fin, avec des êtres...
Et ce sera une place terrible.
Bien sûr. Forme de tristesse, c'est une libération, mais c'est une libération assez triste quand même, partir avec les amérantes.
Comment vous l'avez justement mis en scène, ce devenir zombie du personnage? Vous jouez beaucoup sur le champ contre champ. Parce qu'on ne sait jamais vraiment, Alix voit des choses, mais on ne sait jamais s'il les voit vraiment ou ça fait partie d'une hallucination. Vous jouez beaucoup sur les musiques. Hein. Là, on a entendu le petit tintement dans cet extrait qui est très inquiétant, enfin qui nuance de fantastique la réalité du terrain. Vous jouez aussi sur les vitesses. Il m'a semblé que par moment, par exemple, le 4x4 était un peu accéléré, comme dans les films d'horreur, dans les films de vampires.
Ben oui, par exemple Nosferatu, à un moment, hein, il y a la charrette fantôme qui se met à accélérer et à rouler à toute vitesse. C'est un hommage direct à ce passage-là du film de Murnau, oui, bien sûr.
Et on a l'impression, comme quand j'ai vu pour la première fois Sac la mort, que vous inventez votre propre langage. Et je me suis dit, au fond, c'est logique, c'est la première fois qu'on raconte cette histoire. C'est logique, hein, qu'on ait besoin d'inventer sa propre écriture pour ça. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti en faisant ce film ?
À La Réunion, quand je suis arrivé la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se libérait chez moi. C'est-à-dire que, brusquement, j'allais pouvoir faire les choses librement et ça allait venir. J'avais l'impression que j'avais des choses contenues en moi, que je n'arrivais pas à les incarner dans un récit qui se passe en métropole. Je n'y arrivais pas et voilà. Et là, brusquement, les portes se sont ouvertes. Et aujourd'hui, par exemple, sur ce film-là, j'ai travaillé d'une manière qui a parfois un peu perdu l'équipe technique, mais je changeais d'avis constamment. C'est-à-dire que à la fin de la journée, je rentrais chez moi, dans ma chambre, et brusquement, les images venaient. Les scènes arrivaient et je les voyais et le lendemain je changeais le programme parce que à partir de ce qui se composait petit à petit, même si on tournait dans le désordre, les choses devenaient claires pour moi que c'était comme ça et c'était ça qu'il fallait filmer et que cette scène allait remplacer d'autres qui étaient écrites différemment.
Emmanuel Parot, tout à l'heure on parlait d'une histoire dont on parle peu, en fait, en tout cas qui n'est pas dans les histoires telles qu'elles sont enseignées à l'école, hein, c'est ce passé colonial et esclavagiste de La Réunion. Alors vous en parliez beaucoup dans Sac la mort, hein, c'était un sous-texte très très présent, mais dans Sac la mort, votre précédent film, il y avait une sorte de comique un peu horrifique. Là, on passe un cran, on est dans quelque chose de, qui est franchement désespéré.
Oui.
Il y a de la colère aussi dans ce film.
Oui, en colère. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un en colère tout le temps, donc j'ai pas eu de mal à. J'ai pas eu de mal à le transférer sur mon personnage. Et oui, il est en colère. Dans ce film, évidemment, on ne pouvait pas faire comme dans Sac la mort. D'abord aussi parce que Sac la mort est porté par un acteur qui a en lui l'humour des désespérés et qui est Patrice, qu'on voit un petit peu dans la fameuse séquence de la boutique rouge, et que lui, il est sur ce terrain-là. Et donc, eh bien, on pouvait aller de ce côté-là. Mes deux acteurs et deux personnages, ils sont pas de ce côté-là. Donc, il faut pas utiliser, demander à mon acteur de faire l'inverse de ce qu'il a dans le ventre et dans la tête. Donc, le pari était différent. Mon pari, c'était de dire, voilà, Sac la mort, les Réunionnais le comprennent. En France, il y a eu des réactions très surprenantes et le film n'a pas été tout à fait bien compris. Et effectivement, ça tient, je pense, à ce que peu de personnes ont l'histoire en tête de La Réunion en tête. Parce qu'encore une fois, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage n'est enseignée en France que depuis 2001 ou 2003 avec la loi Taubira. Avant, moi, je suis une génération qui n'avait même jamais entendu parler de ça, ou quasiment jamais. Bon, donc, on va pas forcément s'intéresser à des choses qui nous intéressent pas. On n'utilise pas une machine à laver si on ne sait pas que ça existe. Donc bon. Donc là, je me suis dit, je vais essayer une autre voie d'accès pour que un spectateur occidental puisse que je puisse le prendre par la main et le faire découvrir un état d'esprit, un personnage, une histoire, un pays, un territoire, ainsi de suite. Je me suis dit, voilà, je vais prendre le système du choc. Fritz Lang fait ça. Il fait assez peu de suspense, Fritz Lang. Fritz Lang, il vous donne des coups de poing dans la gueule et vous prenez ces moments-là dans la tronche et c'est comme ça qu'il fait avancer son film. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut prendre. J'ai proposé un film dans lequel vous prenez des coups de poing. Vous prenez des coups de poing aussi sur un personnage qui n'est pas forcément très aimable, mais dont on comprend, j'espère en tout cas, qu'il y a un drame en lui, viscéral, qui fait qu'il se comporte de cette façon. Et j'ai l'impression que c'était le bon choix. J'ai l'impression que ce film est plus ouvert finalement pour un spectateur français et que les gens vont rentrer plus en empathie avec ce personnage et avec l'histoire de ce film sur l'idée du choc.
Merci. Merci Emmanuel Parot. Restez avec nous pour le Journal du cinéma et avant Feu Chatterton avec un titre qui fait penser à votre film.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute, tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît, j'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête, et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien, chien à poil dur. Il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne vienne pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours.
C'était Feu Chatterton, le choix musical de notre réalisatrice Tiffany Minta. Mais tout de suite avec vous, Sophie, on feuillette le journal du cinéma de la semaine. Et vous nous rappelez d'abord les principales récompenses décernées au FESPACO.
Oui, tout d'abord, les talons d'or de Yenenga, décernés à un réalisateur somalien, Ahmed Kadar, pour son premier long-métrage, La femme du fossoyeur.
Bahar hasilnya apa tuh? Meitkan ugar sila. Saya rudi tu dogol sop.
Alors ce film, hein, La femme du fossoyeur, The Grave Digger's Wife, on l'avait vu à Cannes, à la semaine de la critique, c'est l'histoire d'un fossoyeur qui vit dans un quartier pauvre de Djibouti et qui va tout faire pour collecter l'argent nécessaire à l'opération de sa femme qui est gravement malade. Voilà donc La femme du fossoyeur, étalon d'or de Yenenga au FESPACO. On salue également la cinéaste haïtienne Jessica Genemus, hein, qui était notre invitée il y a deux semaines et qui remporte l'étalon d'argent pour Freda, tandis que le bronze va à Une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Laila Bouzid. À noter que le prix d'interprétation masculine revient à Alassane Sy pour son interprétation dans Le père de Nafi de Mamadou Dia, et le prix d'interprétation féminine à la Britannique d'origine sierra-léonaise Zainab Jah pour son rôle dans le film tanzanien Farewell Amor.
À Bombay, les salles de cinéma ont rouvert leurs portes, Sophie.
Oui, alors pour le moment, les exploitants ont mis à l'affiche le dernier James Bond ou des films plus anciens. Mais ils attendent le week-end de Diwali, c'est à partir de jeudi prochain, pour sortir les grosses productions indiennes. Et notamment Suryavanshi avec Akshay Kumar, hein, c'est l'une des plus grandes stars de Bollywood.
Mumbai, Hindustan ka dil. और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11.
Alors voilà un extrait de la bande-annonce de Suryavanshi, hein, un film très attendu. En Inde, le taux d'occupation des salles, hein, la jauge est limitée à moitié, à 50%. Aucun rafraîchissement ne peut être servi, hein, donc c'est encore dire la sévérité de la pandémie de Covid. Donc elle est loin, hein, l'époque pré-pandémique où les spectateurs des grands multiplex se voyaient servir du biryani et de la glace sur leur siège.
Et en France, justement, à propos de salles de cinéma, un festival Netflix a fait monter la pression sur les exploitants, Sophie.
Oui, hein, car on a appris en début de semaine le projet de la plateforme américaine de tenir en France, dans des réseaux de salles indépendantes, un festival pour montrer les longs métrages de prestige, hein, de Netflix. Donc, certains qui étaient déjà disponibles, d'autres à venir, comme par exemple le nouveau film de Jane Campion. Plusieurs organisations du cinéma Évidemment, les distributeurs indépendants, très fragilisés par la pandémie et les chiffres de fréquentation calamiteux, donc sont montés au créneau, dénonçant une attraction à court terme pour les spectateurs et un suicide à moyen terme pour les cinémas, pour les exploitants. Alors, finalement, Netflix se contentera de projeter du 7 au 14 décembre prochain 9 longs métrages, dont 3 inédits, dans 2 institutions publiques, la Cinémathèque de Paris et l'Institut Lumière de Lyon.
Et on termine ce journal du cinéma en Égypte, au Festival international du film d'El Gouna. S'est déroulé un événement inattendu en pleine projection du film Feathers, hein, un film qui a été montré à Cannes, récompensé par le prix de la semaine de la critique. Des stars égyptiennes ont quitté la salle au motif que ce film donnait une mauvaise image du pays. Alors nous sommes en ligne avec le correspondant de RFI au Caire, Edouard Dropsy. Je le disais, cette polémique a commencé dans un festival. Et aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est une affaire d'État.
Alors oui, elle a fait beaucoup parler d'elle. Comme vous l'avez rappelé, en pleine projection, c'est Sherif Mounir, l'un des acteurs égyptiens les plus populaires du pays, qui a quitté la salle avec pertes et fracas et s'est ensuite répandu dans les médias sur le côté indécent de ce film, notamment sur le plateau d'Amar Radib, un animateur de télévision pro-régime, très populaire en Égypte, où l'acteur s'en est pris au parti pris esthétique du film, mais surtout à sa visée politique, accusant le réalisateur primé à Cannes, Omar El Zohari, de ternir l'image du pays en exposant la pauvreté à la vue de tous.
Mais c'est un film politique, du coup ?
Pas à proprement parler, non. C'est une fable sociale, teintée de burlesque. Dans ce film, un habitant pauvre du sud de l'Égypte, sans que d'ailleurs jamais le nom du pays ne soit cité, est transformé en poule. Par conséquent, ne pouvant subvenir aux besoins de sa famille, c'est son épouse qui part chercher du travail, et c'est là que le film prend une dimension politique, notamment sur les difficultés pour les femmes de trouver du travail et que cela soit accepté dans la société, ou encore dans les conditions de vie des bidonvilles qui se trouvent un peu partout dans le pays. Ici, on appelle cela pudiquement des quartiers informels, construits de briques et de brocs, squattant des terrains, et ces quartiers, on peut les trouver partout, notamment le long du Nil.
Mais ça n'explique pas pourquoi la polémique a été si violente.
Alors, il y a deux choses. La première est qu'en 2019, un tiers de la population égyptienne est passé sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire vivant avec moins d'1,7$ par jour. Cela est dû à la dévaluation opérée en 2016, qui a divisé le cours de la livre par deux au cours d'une décennie marquée par une révolution, un coup d'État et des attentats à répétition. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis 2 ans, et malgré la crise sanitaire, les indicateurs économiques deviennent moins mauvais et des programmes sociaux commencent à voir le jour. C'est pour cela que Sherif Mounir affirme que la pauvreté montrée dans le film appartient au passé. Ce qui m'amène à mon deuxième point, celui de vouloir plaire au tout-puissant président Sissi, dans un système de cours où les prisonniers politiques sont au bas mot de 60 000 et où toute critique est sévèrement réprimée, il est de bon ton de s'indigner lorsque l'honneur du pays est en jeu, agitant ainsi la fibre nationaliste et patriote, ce qui n'a pas empêché Feather de recevoir le prix d'or au Festival de Gouna, mais qui a également vu la démission d'Amir Ramsès, le président du festival.
Merci Edouard Dropsy pour ces éclaircissements sur la polémique autour de Feathers. Et merci Emmanuel Parot.
Merci à vous.
On rappelle le titre de votre film Maudit, donc dans toutes les salles françaises le 17 novembre et à La Réunion aussi, bien sûr.
Ça sera en février.
Ou ce sera décalé un peu à cause
de l'épidémie. Après les fêtes de Noël, parce que les exploitants ont beaucoup souffert à La Réunion. Il y a eu un couvre-feu, ils ont tout eu. Et ça redémarre à peine et là ils veulent les films de Noël. Et en janvier il y a les cyclones et donc ça sera en février-mars qu'on pourra vraiment le sortir là-bas.
Donc en février pour La Réunion et pour ceux qui vivent en France métropolitaine le 17 novembre. Bien sûr, on en reparlera sur RFI au moment de sa sortie. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Tiffany Menta.
Rendez-vous la semaine prochaine. Notre invitée sera l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga pour son film Marcher sur l'eau. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
RFI, la